je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 4, des versets 1 à 34. Et dans les Bibles bleues, le texte se trouve aux pages 1119-1120. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Il leur disait dans son enseignement : « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. Puis il dit, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres ? » Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. Il leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la mettre sur son support ? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Prenez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Il dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse, sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples.
Merci Genova et bravo pour cette longue lecture. Avant de commencer, je voudrais juste attirer votre attention sur les très beaux panneaux qui sont arrivés cette semaine. Alors ceux qui venaient à l'église il y a quelques années savent qu'on avait d'autres panneaux avec exactement les mêmes textes et qui, pour diverses raisons, travaux et puis aussi parce que ils avaient un peu vieilli, on a dû les remplacer. Et c'est Claire Agopian, qui n'est pas là, je crois, ce soir, qui a designé ces très beaux panneaux. Donc, bombardez-la cette semaine de textos et de mails pour lui dire à quel point vous les appréciez. Avec toutes ces paroles, donc, en « Je suis » de Jésus. Dans certains débats de société récents, on a parfois entendu dire qu'il fallait se trouver du bon côté de l'histoire. On a entendu ça parfois dans les commentaires médiatiques et autres. Et l'idée était qu'un jour, on jugerait notre époque et on verrait alors qui s'était trouvé du bon côté, qui a défendu telle ou telle cause. Alors parfois, cette idée du bon côté de l'histoire, ça peut avoir du sens, c'est vrai. Quand on considère par exemple ceux qui ont combattu l'esclavage, ceux qui se sont opposés à Hitler, etc., on pourrait trouver d'autres exemples. Parfois, ce type d'argument est aussi utilisé de manière un peu facile pour discréditer des idées adverses. Cela dit, cette idée que l'histoire a un sens et qu'il faut, dans un sens, se positionner par rapport à l'histoire, ça trouve ses racines dans la pensée biblique. Mais dans la Bible, le sens de l'histoire n'est pas une idée subjective derrière laquelle chacun peut mettre ce qu'il veut. Le sens de l'histoire est défini par le grand récit biblique, ce que les théologiens appellent le récit de la création, de la chute et de la rédemption. D'un monde que Dieu a créé, qui s'est perdu et que Dieu est venu chercher à nouveau. Alors à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de juifs pieux, nourris par cette pensée biblique, qui aspiraient profondément à cette intervention décisive de Dieu dans le monde, qui s'attendaient à ce que Dieu vienne chercher son peuple qui s'était égaré. Et donc lorsque Jésus a commencé son ministère en proclamant la venue du royaume de Dieu, c'est une expression qui avait du sens pour beaucoup de ses auditeurs. Le royaume de Dieu, les gens se disaient, oui, c'est ce à quoi on aspire profondément, ce règne exercé par Dieu sur son monde, ce jour où la réconciliation entre Dieu et le monde serait accomplie. Et il nous faut avoir à l'esprit ce grand récit biblique au moment où nous abordons un texte comme celui de ce soir. Un texte qui, de diverses manières, nous parle justement du royaume de Dieu. Vous l'avez peut-être entendu lors de la lecture. Jésus compare le royaume de Dieu à pas mal de choses. Le royaume de Dieu est comme, le royaume de Dieu est comme, etc. Vous aurez peut-être remarqué aussi que ce texte est centré sur des paraboles de Jésus. Il y a d'abord la célèbre parabole du semeur, son interprétation un peu plus loin, et puis quelques paraboles plus brèves qui sont parsemées dans la suite du chapitre. Et ces paraboles, donc ces histoires en images que Jésus nous donne, nous sont présentées en quelque sorte, comme des messages codés qui parlent de la venue du royaume à ceux qui veulent bien écouter. On va essayer d'y voir plus clair et on va se poser pour ça trois questions que le texte nous pose et que Jésus en fait nous pose. D'abord, êtes-vous prêt à écouter? Et je développerai un peu plus ce premier point. Êtes-vous prêt à écouter? Ensuite, êtes-vous prêt à changer? Et enfin, êtes-vous prêt à persévérer? Êtes-vous prêt donc à écouter tout d'abord? On a sans doute tous, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, vu l'un de ces films d'espionnage ou de guerre, où des messages apparemment anodins sont en fait des codes. Donc, Madame va acheter sa baguette demain à 11h. Ça veut sans doute dire un truc du genre, l'aviation va attaquer demain à 11h, etc. Et à première lecture, en tout cas, on pourrait se demander si c'est ce que fait Jésus dans ce texte. Versets 11 et 12. C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. Je me rappelle une personne qui m'interrogeait sur ce texte il y a quelques années, qui me disait, mais alors là, vraiment, ça c'est un des textes où je ne comprends rien. Je croyais que Jésus était venu pour enseigner les foules, pour que les gens comprennent justement. Et là, on a l'impression, en lisant ces deux versets, que Jésus dirait délibérément des choses pour que les gens ne comprennent pas. Je ne comprends plus rien. Mais comme souvent dans la Bible, lorsqu'on fait l'effort d'y regarder de plus près, les choses s'éclaircissent. D'ailleurs, c'est un peu une des idées de ce texte, que quand on y regarde de plus près, les choses s'éclaircissent. Jésus cite au verset 12 le prophète Ésaïe. Alors pour nous, ce n'est peut-être pas une évidence, mais pour ses premiers auditeurs, c'était sans doute quelque chose qu'il remarquait tout de suite. Et dans le contexte du prophète Ésaïe, il y a comme une ironie. C'est-à-dire que Ésaïe est envoyé au peuple d'Israël avec la parole de Dieu qu'il est appelé à proclamer. Mais Dieu le met en garde en quelque sorte et dit, vas-y, va proclamer ça, mais sache qu'ils ne veulent rien entendre. Ils ne veulent rien entendre. Alors on voit après qu'en fait, il y a quand même une partie du peuple qui écoute. Mais Ésaïe est envoyé pour parler au peuple et c'est comme si Dieu disait, tu peux leur dire tout ce que tu veux, de toute façon, ils n'écouteront pas, ils ne comprendront pas. Et dans un sens, tout ce que tes paroles feront, c'est qu'elles endurciront le peuple dans son opposition à moi. Donc il y a comme une ironie. Vas-y, va leur parler, mais la dernière chose qu'ils veulent, de toute façon, c'est croire et se convertir et être pardonné. Eh bien, dans les propos de Jésus, il y a, me semble-t-il, il semble à des commentateurs, cette dimension ironique qui est reprise en quelque sorte. Ceux qui ne veulent pas écouter, de toute façon, ils n'écouteront pas. Et c'est triste, parce qu'écouter les paroles de Jésus leur ouvrirait un chemin nouveau vers le pardon de Dieu, vers la réconciliation avec lui, vers le salut. Alors maintenant, la question reste posée, quel rapport avec les paraboles? Et pourquoi est-ce que Jésus choisit ce mode de communication si particulier? Est-ce que l'idée, c'est que la compréhension des paraboles est réservée à quelques initiés privilégiés, qui eux ont une façon mystique de comprendre tout de suite ce que les autres ne comprennent pas? Ben en fait non, parce qu'on voit dans ce texte au verset 10 que les disciples de Jésus eux-mêmes, ils ont du mal à comprendre. Mais ils viennent voir Jésus, et Jésus se montre prêt à leur expliquer. Et ce que je voudrais vous suggérer, c'est que c'est là une des clés pour comprendre pourquoi Jésus utilise des paraboles. En quelque sorte, ce sont des tests de positionnement face à Jésus. J'oserais presque dire des tests de motivation. À quel point est-ce qu'on veut comprendre ce que Jésus veut nous dire? C'est pas que les paraboles de Jésus soient particulièrement compliquées ou ésotériques. La plupart sont relativement simples, il y a peut-être une ou deux exceptions, mais globalement, ces paroles sont relativement simples. Mais face aux paraboles, deux réactions au moins sont possibles. Première réaction, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, comme on dit. Alors, pour diverses raisons, certains peut-être se disent « je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire, je ne veux pas en savoir plus ». D'autres trouvent ça sympathique, mais voilà, sans plus, s'y attardent pas plus. D'autres peut-être les trouvent presque trop simples, trop naïves en apparence, et du coup ne voient pas l'intérêt de s'intéresser à des petites histoires. Et c'est peut-être la réaction de beaucoup aujourd'hui, lorsqu'ils entendent ou lisent les paraboles de Jésus, se dire « ouais, c'est mignon, des petites histoires, mais moi je m'attends quand même à des choses un peu plus costauds que ça ». Peut-être les réactions peut-être que certains peuvent avoir. Mais en fait, la question est de savoir si on est prêt à écouter Jésus et à le prendre au sérieux. Est-ce qu'on est prêt, verset 10, verset 33, à venir à lui pour comprendre le sens de son enseignement? Alors bien sûr, Jésus n'a pas seulement parlé en parabole. On voit bien dans d'autres passages qu'il utilise d'autres types de discours plus directs. Mais ces paraboles étaient une manière pour lui, en quelque sorte, de tester les cœurs. Est-ce que nous sommes prêts à faire silence, à écouter ce que Jésus veut nous dire? Et est-ce que nous sommes prêts à rentrer en quelque sorte dans sa façon de penser et dans ce qu'il veut nous révéler du royaume de Dieu? Et on constate que c'est précisément le sens et le but de la parabole dite du semeur, versets 3 à 9. Ce qui est frappant avec cette parabole, c'est que c'est, comme disent les critiques littéraires, une mise en abîme. En fait, il y a un effet de miroir dans ce texte. Donc, imagine, j'ai déjà donné un exemple analogue, mais c'est pas grave. Imaginons que je raconte une histoire à ma fille au moment où je la couche, ce qui m'arrive régulièrement en bon papa, et que cette histoire que je lui raconte parle d'un père qui raconte une histoire à sa fille au moment de la coucher. Ben là, il y aurait une mise en abîme, hein, juste un effet de miroir en fait. Alors, après le culte du matin, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Ah, c'est comme les rappeurs, quand ils rappent, ils parlent de leur rap. » J'avais jamais pensé à ça. Mais en gros, voilà, hein, une mise en abîme, c'est un effet de miroir. En fait, c'est ce que Jésus est en train de faire ici. Il enseigne sur son enseignement. Ce qu'il décrit dans la parabole, c'est précisément ce qu'il est en train de faire au moment où il raconte la parabole. Le semeur, on comprend rapidement en lisant le chapitre que c'est lui, c'est Jésus. Et comme il explique lui-même, la semence, c'est sa parole. Donc le semeur sème abondamment la semence un peu partout. Donc la parole est largement diffusée, mais elle ne prend et ne porte du fruit que quand la terre est bonne, prête à accueillir et à faire grandir la semence. Et bien de même, Jésus parle à des foules, mais pour beaucoup de ses auditeurs, Ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Certains se laissent superficiellement toucher par la parole, mais face aux épreuves de la vie, face aux tentations en tout genre de ce monde, verset 19, eh bien, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la distance. Parce qu'ils n'ont pas saisi que la parole de Jésus est la plus importante entre toutes et qu'elle est la seule qui puisse nous sauver de notre perdition. Alors l'une des grandes questions que nous pose ce texte, donc, c'est est-ce que nous sommes prêts à écouter, à vraiment écouter Jésus ? C'est une question qui est posée d'une part aux non-croyants, à ceux qui ne sont pas encore disciples de Jésus. Et si c'est votre cas aujourd'hui, si vous n'êtes pas ou pas encore, nous espérons, chrétiens, le défi vous est lancé d'écouter vraiment la parole de Jésus. Ne serait-ce que pour pouvoir en parler valablement. Ne serait-ce que pour pouvoir dire en connaissance de cause, ben non, j'y crois pas. Mais pourquoi ne pas faire le pari de la véracité de cette parole ? Pourquoi ne pas au moins décider de la prendre au sérieux et de voir ce que ça change dans votre conception de la vie et dans le sens même de votre vie ? Et si ces paroles de Jésus, qui peuvent paraître naïves à première vue, étaient en fait porteuses de vie et d'éternité ? Mais la question est posée aussi aux chrétiens, à ceux qui sont disciples, qui se sont déclarés déjà comme disciples. Est-ce que nous sommes prêts à écouter ? Est-ce que nous sommes prêts vraiment à écouter la parole de Jésus, à lui accorder la priorité à cette parole essentielle et qui change notre pensée, qui change la vie ? Je pense que jamais dans l'histoire de l'humanité, on a été autant exposé quotidiennement à des messages en tout genre. Ça n'arrête pas, ça vient de partout, par Internet, par les... ça vient de partout. Ce n'est pas forcément des mauvais messages, mais il y en a plein en même temps. Et il y en a qui sont mauvais. Ou, comme beaucoup, qui sont juste mixtes, partiellement bons, partiellement mauvais. Est-ce que nous sommes prêts, dans ce tumulte de messages, à accorder la priorité à celui qui seul peut nous sauver de la mort, de la perdition et de l'absence de sens ? Et est-ce que nous sommes prêts à laisser ce message redéfinir notre vision du monde, même quand ça va à contre-courant de l'air du temps ? Donc l'enjeu, c'est bien plus qu'une croyance abstraite. L'enjeu, c'est une façon de vivre. Parce que c'est une des choses uniques à propos de la parole de Jésus, de la parole de Dieu, d'un point de vue général, c'est que quand on se met vraiment à son écoute d'un cœur qui est prêt à l'accueillir, eh bien cette parole nous change. C'est une parole qui nous change vraiment. Et ça nous amène à la deuxième grande question. Êtes-vous prêt à changer ? À plusieurs reprises dans le texte, Jésus rappelle l'enjeu existentiel qui se pose. Verset 12, il évoque la nécessité de la conversion et du pardon des péchés. Verset 15, il évoque les attaques de l'adversaire, Satan, pour enlever la parole. Donc si Satan veut enlever la parole, c'est manifestement qu'elle gêne ses intérêts. Verset 22, il évoque un jugement à venir quand les actions et les pensées des hommes seront mises en lumière. Et au verset 24 et 25, il laisse entendre que la manière d'écouter sa parole est en rapport direct avec ce qui se passera au jour du jugement. Et au-delà de ce texte, Jésus parle souvent du jugement, de ce jour qui vient et qui précédera l'établissement final du royaume de Dieu. Parce que la réconciliation de Dieu avec le monde a des conséquences pour une humanité révoltée contre Dieu. On ne peut pas en même temps se révolter contre Dieu et espérer être réconcilié avec lui. Et Jésus, à la suite des prophètes de l'Ancien Testament, présente le jugement comme une perspective que l'homme ne contrôle pas. C'est Dieu qui décide du jugement. Et ça relève de sa souveraineté, ça surviendra à un moment qu'on n'attend pas. Ce n'est pas nous qui décidons quand ça aura lieu. Et une chose qu'il est bon de se rappeler aussi, c'est que oui, il y aura un jugement, la Bible nous le dit, à la toute fin des temps. Mais pour beaucoup d'entre nous, sans doute, sinon tous, en fait, ce qui nous amènera à ce jugement, c'est le jour de notre mort. Il n'est pas dit qu'on soit encore là le jour de la fin du monde. Et donc, on ne peut pas juste se dire « Ah, mais ça arrivera sans doute dans plusieurs siècles ». En fait, l'échéance, elle est peut-être pas si éloignée que cela. Donc, Jésus, à la suite des prophètes de l'Ancien Testament, nous présente le jugement de cette manière-là comme quelque chose auquel on doit se préparer parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Jésus exhorte ses disciples à réorienter leur vie pour qu'ils soient prêts pour ce jour où chacun devra rendre des comptes à Dieu. Il ne s'agit pas de vivre en étant obsédé par la venue du jugement, mais plutôt de vivre d'une manière qui montre qu'on s'y prépare. Et la manière de s'y préparer, en fait, c'est de se réconcilier avec Dieu. Être en paix avec Dieu nous donne l'assurance qu'on n'a rien à craindre de ce jugement. Et donc, il faut se réconcilier avec Dieu avant que ce jour n'arrive. Je ne sais pas si ça vous arrive de jouer au Ligretto. C'est un jeu de rapidité qui se joue avec des cartes de couleurs différentes. Et alors, personnellement, je suis absolument catastrophique à ce jeu. Mais passons. Le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces cartes parce qu'à un moment, quelqu'un dit stop et là, tout s'arrête. Et s'il nous reste des cartes en main, c'est mauvais pour nous. C'est perdu. Mais plus on a de cartes, plus c'est mauvais. Alors, on ne sait pas, en fait, quand le jeu se terminera, mais il faut se préparer constamment à cela en se débarrassant de toutes ces choses, de tout ce qui nous pénalise. Alors, je sais, l'image est impropre. En termes d'illustration triviale, c'est pas mal. Mais dans l'enseignement de Jésus, il y a cette imminence du coup d'arrêt qui vient à un moment où on ne sait pas quand ça sera. Il y aura un coup d'arrêt. Et avant ce coup d'arrêt, il faut, entre guillemets, solder ses comptes avec Dieu, nous débarrasser de tout ce qui nous éloigne de lui. Et là, il ne s'agit pas de mal comprendre et de dire « Ouh là là, alors il va falloir que je fasse une série de bonnes œuvres en espérant qu'au final, Dieu regardera ça et dira « Bon, il ou elle a fait tellement de bien que ça passe. » En espérant que Dieu sera clément au jour du jugement. Non, il s'agit plutôt d'accueillir le moyen que Dieu a lui-même pourvu pour nous sauver du jugement, c'est-à-dire le pardon plein et total et définitif qu'il nous offre en Jésus-Christ. Et ce pardon, si nous l'accueillons vraiment, ne peut pas nous laisser inchangés dans notre manière de vivre. Donc on voit que l'enseignement de Jésus, c'est tout ou rien. On ne peut pas le distiller en une version light où on prend juste quelques parties de son enseignement qui nous plaisent. Allez, le souci des pauvres, l'amour du prochain, mais tout le reste je mets de côté, et d'autres choisiront peut-être d'autres choses. L'appel radical à changer de vie, à se détourner du mal, ça on a peut-être plus de mal. Non, la parole de Jésus nous engage entièrement, elle nous engage à le suivre sur le chemin qu'il a emprunté, un chemin difficile qui l'a conduit jusqu'à la croix, mais qui a débouché le matin de Pâques sur le tombeau ouvert, sur la vie éternelle. Donc la question nous est posée, à nous aussi, sommes-nous prêts à changer. Pour nous qui sommes chrétiens, une autre question se pose en parallèle. Est-ce que nous changeons? Est-ce que la parole de Jésus fait son œuvre dans notre vie? Pas forcément de manière drastique ou spectaculaire, alors parfois c'est le cas, mais souvent ça ne l'est pas et c'est plutôt progressif. Est-ce que nous nous laissons changer, modeler, réorienter par cette parole? Et pour ceux d'entre nous qui sont chrétiens de longue date, je crois qu'une question peut-être un peu désagréable, mais nécessaire doit être posée. Nous devons nous la poser. Est-ce que nous avons grandi dans notre relation avec Dieu au cours des 2, 5, 10 dernières années, 20, 30, etc. Est-ce que dans les faits, nous changeons? Est-ce que nous lui faisons plus confiance? Est-ce que nous avons plus de joie et de paix dans notre relation avec lui? Si la réponse est oui, merci Seigneur, et comme dirait l'apôtre Paul, progressons encore. Si la réponse est plutôt non, ou je ne sais pas trop, ou ça dépend des jours, et c'est peut-être que si on est honnête, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, eh bien je pense que la réaction légitime n'est pas la honte ou le fatalisme, mais plutôt de revenir à la question posée plus tôt. Est-ce que nous sommes vraiment à l'écoute de sa parole? Est-ce que nous sommes prêts à accueillir cette parole? Parce que si nous accueillons cette parole régulièrement et à cœur ouvert, nous pouvons avoir confiance qu'elle nous changera et qu'elle réorientera notre vie. Nous avons un Dieu qui est patient envers nous. Mais il nous invite aussi à la patience et à la persévérance pour voir le plein accomplissement de son œuvre. Et c'est notre troisième question, et la dernière. Êtes-vous prêt à persévérer? On a vu que dans l'appel de Jésus, dans l'appel qu'il lance, dans son enseignement, il y a une urgence, il y a la perspective du jugement qui peut venir à tout instant. Mais il y a aussi un appel à la patience et à la persévérance. Déjà dans la parabole du semeur, cette notion de patience est présente implicitement. La semence, elle ne germe pas en un instant. Et quand elle germe trop vite, à la limite, verset 5, ça peut être mauvais signe qu'en fait, elle n'a pas de racine. Pour porter du fruit, verset 20, la bonne terre prend du temps. Ce n'est pas une idée centrale de cette parabole. Jésus n'insiste pas là-dessus, mais c'est sous-entendu, je pense, par cette image. Mais les choses deviennent par contre plus explicites un peu plus loin, avec la parabole la petite parabole de la semence et puis celle de la graine de moutarde. Et avant d'aller plus loin, là encore, il faut remettre les choses en contexte. En entendant Jésus annoncer le royaume de Dieu, beaucoup de ses premiers auditeurs, et on peut les comprendre, se sont dit, bah alors si le royaume de Dieu arrive, bah tout va changer tout de suite. Fini la mort, fini la souffrance, fini le mal, fini les Romains, tout ça, ça va changer tout d'un coup. Mais Jésus les détrompe. Le royaume de Dieu agit pour l'instant discrètement, comme en coulisses. Et c'est particulièrement net dans la parabole de la graine de moutarde, je lis au verset 31. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que tous les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Les débuts sont discrets, presque un peu cachés, mais l'accomplissement est glorieux. De son côté, la parabole de la semence qui la précède souligne le caractère progressif sur le long terme de la croissance du royaume. Verset 26, le royaume de Dieu ressemble à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. Jésus veut que ses auditeurs comprennent qu'il n'est pas venu dans un premier temps pour apporter une grande révolution et des bouleversements cosmiques. Alors le temps du bouleversement, il viendra plus tard, lors du jugement. Mais en attendant, le royaume se répand par la parole de Jésus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la plupart des cas, la parole de Jésus n'agit pas avec fracas, mais plutôt en changeant peu à peu les hommes et les femmes qui l'accueillent, pour les préparer à accueillir et à recevoir le royaume de Dieu. Alors comme aiment bien le dire les théologiens, nous sommes entre le déjà et le pas encore du royaume de Dieu. Il y a un théologien, justement, Oscar Kuhlmann, qui a utilisé une image qui est souvent reprise pour parler de cet entre-deux. Alors, elle ne plaît pas à tout le monde, cette image, parce que c'est une image guerrière, mais je la trouve quand même relativement parlante. Kuhlmann évoque le débarquement en Normandie, et il souligne que la victoire décisive de la Deuxième Guerre mondiale, c'est là qu'elle a été remportée. Pourtant, la guerre, elle a continué ensuite pendant presque un an. Les batailles ont continué à faire rage, il y a eu encore beaucoup de morts, beaucoup de souffrances. Mais l'issue de la guerre était assurée depuis cette victoire décisive. Eh bien, Kuhlmann fait le parallèle, qui n'est pas parfait bien sûr, comme pour toutes les images, mais il fait le parallèle avec la mort et la résurrection de Jésus, qui sont l'acte de victoire décisif de Dieu dans la reconquête du monde perdu. Et cette intervention décisive n'était pas la fin de l'histoire du monde présent, et d'ailleurs 20 siècles plus tard, on est encore là et le monde continue de s'agiter. Et nos vies à chacun continuent de s'agiter aussi. La vie n'est pas brusquement devenue facile. Ce n'est pas encore pour tout de suite la fin de la souffrance, de la mort, des guerres, etc. Parfois, pour les disciples de Jésus, la vie est même plus difficile. Mais ce jour-là, une autre histoire que celle qui fait la une des journaux a commencé discrètement. La parole de Jésus, transmise, proclamée, change les vies une à une et rassemble une nouvelle humanité réconciliée avec Dieu. Et si par la foi en Jésus, nous nous associons à cette histoire, c'est notre histoire personnelle qui va changer aussi. Et dans une église locale comme la nôtre, notre vocation, c'est de vivre un avant-goût de ce royaume qui vient et d'être une antenne locale de ce royaume de Dieu, comme une ambassade de ce royaume, et de persévérer ensemble dans cet entre-deux. Nous attendons encore le royaume de Dieu, mais nous nous y préparons en accueillant sa parole, en laissant cette parole vivre en nous et nous changer, nous transformer. Et n'oublions pas, comme Jésus le montre bien, que l'enjeu c'est la mort ou la vie, la perdition ou le salut. Il serait dramatique de ne pas saisir cette parole dont nous avons désespérément besoin. Et si vous voulez en savoir plus sur comment saisir cette parole et sur comment devenir un disciple de Jésus, venez m'en parler, venez en parler à l'un des responsables de l'Église, soit Paul, Clifford, Paul, ou une autre personne de confiance de cette Église que vous connaissez. N'hésitez pas et nous serons heureux de vous en parler. Avons-nous des oreilles pour entendre ? Amen.